J'ai vraiment vu se transformer dans quelqu'un qui était du coup beaucoup plus détendu, il était drôle, il était français. Il est devenu quelqu'un d'autre, il a même fait des blagues sur les ADA. Hein, un soir, on était au vieux port de Marseille, dans un restaurant. Ils aimaient beaucoup des huîtres et du champagne, donc il a commandé des huîtres et du champagne. Et il m'a demandé, mais tu as appris à l'école que le capitalisme était en train de mourir? Et je dis oui. Il a dit, mais c'est quand même une belle mort, non?
Ah.
Et c'était la première blague que j'ai entendue de lui sur la RDA. Et plus tard, on était dans la maison de Gilles Perrault, parce que Gilles Perrault était un bon ami à lui. Et il y avait là Régis Debray. Et ils m'ont tous raconté comment la RDA était bien et fort, et comment les Français adoraient la RDA. Parce que Régis Debray, à l'époque, était conseiller spécial de Mitterrand. Et je me souviens, on était à Gordes, hein, près d'Avignon. Il faisait bon, on a bien mangé. Et je me suis dit qu'il faut peut-être être à Gordes, près d'une piscine, pour adorer la RDA. Hein, parce que j'étais assez sûr que ces gens n'ont jamais été là-bas, qu'ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient. Mais la RDA, pour eux, c'était en quelque sorte une image aussi fausse et aussi imaginaire que mon grand-père aussi avait de ce pays. Donc, dans ce sens-là, les communistes français et mon grand-père étaient tout à fait d'accord.
C'était une illusion que ces intellectuels français avaient, mais votre père, Annette, nourrissait cette illusion.
Je sais seulement que mes parents n'avaient pas des amis qui étaient des Allemands normaux. Tous les gens de son âge avaient une telle biographie. Et d'ailleurs, lorsque j'étais enfant, petit enfant, je pensais toujours que presque tous les gens en RDA étaient dans la résistance, dans le camp de concentration ou en exil. Et c'était seulement plus tard que j'ai compris que c'était seulement une toute petite minorité, un peu isolée en RDA, mais qui était quand même une partie du pouvoir.
Ainsi s'écrit l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H, si toutefois ça, ces différences ont encore un sens, c'est-à-dire avec les histoires, le cœur des hommes, la passion des hommes, l'amour des hommes, qui est broyé par l'histoire et qui font aussi l'histoire, qui y contribue. Un homme qui rentre dans la résistance entend faire l'histoire. Un homme qui s'engage à la construction d'un pays comme celui-là veut faire l'histoire. Dans la RDA et dans beaucoup de ces pays, on a vu des hommes arriver qui s'étaient battus contre le franquisme en Espagne, qui étaient dans les brigades internationales, qui étaient dans la résistance, etc. Et donc des hommes qui voulaient faire l'histoire. Et puis, voilà, le temps est passé, phénomènes divers et variés, des illusions aussi, des fois trop grandes, des aveuglements, des mensonges, des concessions petit à petit, font que l'histoire dérape, s'enfonce et les vainqueurs n'ont plus qu'à prendre le fruit mûr et pourri du temps. Alors là, on évoque ton grand-père, votre père, Annette, mais il y a toute une histoire bien plus ancienne que tu évoques dans ton bouquin, évidemment.
Le point de départ, c'était peut-être un procès que mon arrière-grand-père avait fait contre Joseph Goebbels, qui est devenu le ministre de la propagande du Troisième Reich plus tard, parce que Goebbels avait prétendu qu'un officier français l'avait torturé pendant la Première Guerre mondiale et qu'il avait un pied mal formé à cause de ça. Et ce général français a porté plainte contre Goebbels et a pris mon arrière-grand-père comme avocat. Et mon arrière-grand-père pouvait assez facilement prouver que Goebbels avait tort parce qu'il y avait une photo du petit Goebbels dans sa classe avec son pied mal formé, déjà à 6 ans, donc il était prouvé qu'il avait tort. Mais l'avocat de Goebbels avait annoncé que si jamais les nazis prenaient le pouvoir, il allait s'occuper de mon arrière-grand-père. C'est ce qu'ils ont fait. Quelques jours après la prise du pouvoir, ils ont arrêté mon arrière-grand-père, l'ont mis dans un camp de concentration. Et c'était peut-être ce moment-là qui a le plus marqué mon grand-père Gerhard, qui a vu cette scène depuis sa fenêtre. Il a vu comment la SA l'a battu, comment ils l'ont pris dans la voiture. Il a hurlé et je crois, et c'est lui qui l'a dit aussi plus tard, que c'était le moment où il est devenu résistant, à 10 ans. Et après, ils ont dû quitter l'Allemagne. ils ont fui via la Belgique et sont allés en France. Et c'est là où il a grandi, et c'est là où il a eu sa scolarité. Et c'est là où, quand l'armée allemande est arrivée, plus tard, il a rejoint la résistance. Et je crois que Gerhard, il ne s'est pas vraiment posé la question. Pour lui, c'était